Cours de philosophie première par le Père Philippe à Saint-Judard, le 4 décembre 89.
On va aborder le problème de la personne humaine, mais avant, puisque la dernière fois, on a parlé de l'un, et une question a été posée qui est du reste intéressante, difficile à bien préciser. Est-ce que l'un et le multiple divisent immédiatement l'être? Je dis là, il y a un problème intéressant de comparaison entre Aristote et saint Thomas. Alors mettez ça en appendice, en nota bene. C'est intéressant. Il y a sûrement là un problème très foncier qui est difficile du reste. Jamais Aristote dit que l'un et le multiple divisent l'être. Qu'est-ce qui divise l'être? Ce qui est le tourne, ce qui est en tant qu'être. Première division, l'ousia. Deuxième division, l'être en acte, l'être en puissance. Alors, pouvons-nous mettre troisième division, l'un, le multiple. C'est intéressant et c'est important. C'est pas une question secondaire. Parce que tout ce qui divise l'être fonde l'analogie de l'être. Évident, parce que l'être se dit de multiples manières. Les guétails, polakos. Manière. Numéro 1. Ici. L'être se dit de multiples manières. Numéro 2. Et numéro 3. Pour Aristote, tout un petit problème de l'analogie là. L'être se dit de multiples manières, c'est numéro 1. Et en face du legetai. Alors, se dit. Donc, c'est l'attribution. L'être se dit de multiples manières. L'être se dit de la substance, l'être se dit de la qualité, l'être se dit de la quantité. Tout ça, c'est de l'être. Comme disait le professeur Remacher à Fribourg, quand il était venu faire une conférence, on disait, c'est comme un sac de pommes de terre. Alors, il y a des multiples pommes de terre de formes différentes. L'être se dit de multiples manières. Oui, il se dit de ces façons multiples et diverses. Bon, il se dit, ou il est dit, les guétails, il est dit de multiples manières. Il est dit de la substance en premier lieu, il est dit de la qualité en second lieu, il est dit de la quantité en troisième lieu, et ainsi de suite. Tandis que ici, on ne parle plus du legetai. On dit l'être se divise. Et c'est l'analogie de proportion. Et Aristote réserve le mot analogia pour la division de l'être en acte et l'être en puissance. à partir d'Avicenne, c'est des questions historiques mais intéressantes au point de vue philosophique, à partir d'Avicenne, l'analogie de l'être regarde le légétail et regarde l'un et le multiple. Je crois, je ne peux pas l'affirmer de façon absolue, mais je crois bien que c'est Avicenne le premier qui a dit que l'être se divisait en un et en multiple. Et donc, on a trois formes d'analogie. L'analogie ad unum, c'est celle-ci. C'est l'analogie qui implique un ordre. Alors on dit, c'est l'expression de saint Thomas, c'est pas Aristote. L'analogie ad unum. Tout se réfère à la substance. Aristote dit simplement les détails pour la cause. L'être se dit de multiples manières. Il ne dit jamais analogie. On se demander pourquoi, du reste. C'est intéressant comme chose. Étant indique que l'analogie exprime quand même toute une manière de penser. Alors vous voyez, là on est en face de l'analogie ad unum, c'est-à-dire impliquant un ordre. Et c'est du côté du legetai, donc de l'attribution. On attribue l'être à la substance, à la qualité, à la quantité, et ainsi de suite. Et on est en face, je vous dis, saint Thomas appelle ça l'analogie ad unum. Je crois bien que le mot analogie a cette, vient d'Avicenne. Donc là, il y a un petit problème historique. Chez saint Thomas, c'est sûr, mais je ne crois pas que c'est saint Thomas qui l'a inventé. Et c'est déjà chez Albert le Grand, n'est-ce pas ? C'est pour ça que je dis que c'est Avicenne, la source. Ici, il ne s'agit plus d'attribution. Il s'agit de comprendre l'analogie de proportion. C'est comme ça que saint Thomas il y a une proportion. Tout ce qui est entre l'être en acte, entre l'être en puissance et l'être en acte, il y a un rapport. Oui. C'est tout à fait différent. Ce n'est pas l'ordre des déterminations dont il y a un premier, c'est un rapport entre les deux. Je peux faire là des analogies constantes en disant la matière est à la forme, vous voyez, la matière, ce qui est en puissance à l'égard de l'acte. Puisque la matière est en puissance par rapport à la forme qui est acte, mais la forme n'est pas l'acte, elle est autre chose. Mais il y a une relation entre les deux, donc relation de proportion. On dira, ce qui est, vous voyez, celui qui dort est à celui qui est éveillé, comme celui qui voit à celui qui peut voir. Il y a un rapport. C'est pas du tout l'attribution. C'est autre chose. Ce qu'on saisit, c'est un rapport commun. On saisit ce qu'il y a de commun, c'est le rapport. Donc on appelle ça analogie de proportion. Et puis quand il s'agit de l'un et de multiple, saint Thomas ne dit rien, c'est moi qui dis ça. Je dis que saint Thomas parle dans le De Veritate d'une analogie de proportionnalité. C'est du reste très difficile à bien comprendre. Et je crois que ça provient du fait qu'on est en face de l'un et du multiple qui est au niveau de la propriété. L'analogie au niveau de la propriété, c'est une analogie métaphorique. Le lac sourit. Le rire est à l'enfant ce que un certain mouvement est au lac. Oui, on dit le lac rit ce matin. Toutes les analogies métaphoriques pour en faire des quantités. Hein. Quand vous parlez d'une fenêtre qui est un œil de bœuf, c'est métaphorique, l'œil de bœuf. C'est poétique, c'est plus ou moins poétique. Mais parce que l'œil de bœuf, c'est moins poétique. Mais c'est, on voit bien ce que ça veut dire. Ce n'est plus une analogie qui touche quelque chose de premier dans l'être, mais qui touche quelque chose de second. Les propriétés, les accidents. L'œil de bœuf, c'est très accidentel par rapport à la réalité. Tu vois ? C'est la figura, vous voyez. La figura, c'est une propriété. Ce qui est rond. La sphère est, comme figure géométrique, ce que l'éternité est au temps. Le temps se prolonge successivement. L'éternité, le point de départ, et le terme se rejoignent. C'est une analogie de proportionnalité et métaphorique. Parce qu'elle regarde les propriétés. Elle ne regarde pas quelque chose de premier. Elle regarde quelque chose de second. Alors, ce qui est intéressant, simplement, parce que de fait, chez saint Thomas, vous avez les trois termes. Analogie d'attribution, analogie de proportion, analogie de proportionnalité. Je crois que ça se ramène à ces trois divisions de l'être pour saint Thomas. Et je pense que ça se rattache à Avicenne. Il y aurait une quatrième analogie dans saint Thomas. J'ai étudié beaucoup ce problème à cause du père Montagne qui fait un livre sur l'analogie de saint Thomas qui me semble très faux. Dès qu'on est en face d'erreurs, on est obligé de creuser. Ou à un moment donné, c'était un très gros problème chez les thomistes. Maintenant, si les thomistes dorment, là, j'ai plus un problème. Mais c'était un très gros problème à un moment donné. Alors, il y a une quatrième type d'analogie, c'est l'analogie en théologie naturelle. La sagesse est à Dieu, ce que la sagesse est à l'homme. On passe de l'infini au fini. La sagesse est infinie à Dieu. Et la sagesse, alors comment se fait-il que j'attribue le même ? Oui, j'attribue. Donc, analogie d'attribution. Le legitai. Le legitai n'est plus tout le même. C'est plus adunum. C'est l'infini et le fini. Quand vous dites Dieu est parfait, quand vous dites que Dieu est beau, quand vous dites que Dieu est bon, Dieu seul est bon. Oui. Alors vous passez d'une attribution qui regarde quelque chose d'absolu, alors que vous êtes parti d'une attribution qui est particulière. Oui. L'homme est bon. Dieu est bon. La bonté attribuée à l'homme, la bonté attribuée à Dieu, n'est pas la même. Elle est analogiquement la même. Oui. Toute la théologie repose là-dessus. Déjà la théologie naturelle. On peut dire quelque chose de Dieu à cause de ça. C'est que telle notion n'implique en elle-même aucune imperfection. Donc, je peux l'attribuer à l'homme et je peux l'attribuer à Dieu. Je peux dire, par exemple, Dieu est bon. Le cheval est bon. L'homme est bon. Vous voyez, j'attribue la bonté à telle personne et j'attribue la bonté à Dieu. Quand j'attribue la bonté à Dieu, elle est infinie. Quand j'attribue à l'homme, elle est limitée. Vous voyez, à Alors, je suis devant un type d'analogie nouveau. Et ça, c'est le propre. Il y a à la fois, dans cette analogie, l'analogie de proportion et l'analogie d'attribution. Je crois que c'est la synthèse des deux. Là, je vous dis ce que je pense, hein, parce que vous ne trouverez pas ça. Ce serait le quatrième type d'analogie qui est propre à la théologie. Et alors, il y a une cinquième analogie propre à la théologie par rapport à la très sainte Trinité. Et c'est pour ça que c'est l'analogie de l'analogie. Hein. C'est normal, du reste, c'est tout à fait normal. Le terme analogie est d'abord du côté de l'attribution. C'est comme ça qu'on a inventé le mot analogia. Donc, c'est au point de vue logique et au point de vue critique. C'est pas en métaphysique, on ne voit pas la métaphysique d'analogie. Mais vous prenez le fondement de l'analogie en parlant de l'analogie de l'être. Mais en réalité, quand vous parlez de l'analogie de l'être, vous parlez d'un fondement de l'attribution, du jugement et du raisonnement. Parce que ça se retrouve aux différents niveaux de la pensée. Et c'est pour ça que vous pouvez parler d'un universel analogique et d'un universel univoque. Et vous le voyez par le point de vue de l'attribution. Donc, voyez là, c'est tout ce problème de qu'est-ce que c'est que l'analogia. Pour Aristote, l'analogia provient, le terme, des mathématiques qui parlent de la proportion. Donc le terme analogia vient des mathématiques et a été transporté, transposé en philosophie. Et alors, à ce moment-là, analogia en philosophie s'oppose à l'attribution univoque et l'attribution équivoque. Donc ça, il faut bien le comprendre aussi. C'est important à saisir. Au niveau de l'attribution. Vous avez l'attribution univoque, l'attribution équivoque, l'attribution analogique. Votre point de vue, attribution. Donc, vous voyez bien, c'est logique l'attribution. Pierre est intelligent. Vous attribuez intelligent à Pierre. Donc c'est le propre. La seconde opération d'intelligence, de composer et de diviser. Elle compose en attribuant. C'est pas l'appréhension. Alors, l'attribution univoque, c'est lorsqu'il y a le même mot et la même signification. Vous dites par exemple, le terme générique, le genre, est attribué univoquement. Le terme générique animal est attribué univoquement. L'araignée est un animal. Le cheval est un animal. Vous avez le genre animal. À la définition. La définition logique reste univoque. Toujours la même signification. Le même mot et la même signification. Le même mot animal, dont la signification est la même pour l'araignée et pour le cheval. Bien que la réalisation ne soit pas tout à fait la même. Si l'araignée pouvait regarder le cheval en disant « Nous avons le même genre », équivoque, c'est quand c'est le même mot et une signification totalement différente. Œil de bœuf. Tout ça fait différent comme signification. Oui, mais radicalement, il y a toujours quelque chose de commun. Autrement, on ne prendrait pas le même mot. Oui. Mais ordinairement, il y a quelque chose de commun au point de départ. Souvent une analogie métaphorique. Puis on a oublié complètement qu'il y a quelque chose de commun. Alors, le même mot. Le même mot qui est attribué à deux choses. Il n'y a même pas une notion générique. Il n'y a rien de commun entre la fenêtre œil de bœuf et l'œil de bœuf. Le véritable, hein, le véritable. Si ce n'est que c'est rond. Parce que l'œil de bœuf, regardez un bœuf qui vous regarde. Vous avez vraiment quelque chose de particulier. Et vous pensez tout de suite à l'œil de bœuf. Et c'est curieux, hein, ça, c'est, ce serait Hegelien. Hegel dirait, c'est grâce à l'œil de bœuf, fenêtre, que je peux regarder l'œil de bœuf dans la réalité. Tandis qu'Aristote dit l'inverse, c'est toute la différence. Aristote dit l'inverse, c'est parce que j'ai regardé un œil de bœuf qu'en regardant après une fenêtre, tiens, c'est un œil de bœuf. Cette maison me regarde avec cet œil de bœuf. Il y a quelqu'un derrière qui regarde à travers l'œil de bœuf. On voit les analogies. Mais c'est curieux parce qu'Aristote, Hegel dit ça textuellement dans l'esthétique, pas l'œil de bœuf. Il dit que c'est parce que j'ai une musique dans la tête que j'apprécie le chant du rossignol. Car il se dirait, j'ai entendu le chant du rossignol plusieurs fois dans ma vie et ça m'a mis une certaine mélodie dans la tête. Et après, je... Oui. L'ordre est inversé. Oui.
On ne peut pas dire que l'œil de bœuf, c'est simplement une métaphore.
Oui, c'est une métaphore, mais c'est une attribution équivoque.
C'est la même chose.
Oui, c'est simplement pour expliquer le mot. Attribution équivoque, c'est le même mot, signification totalement différente. Si je regarde bien, dans la métaphore, vous rappelez ce qu'il y a de commun. Oui. Tandis que dans l'attribution équivoque, vous constatez que c'est totalement différent, qu'il n'y a pas de chose générique commune. Et alors, l'origine, il y a eu à un moment donné quelqu'un qui a fait cette métaphore. Oui. Et alors, c'est passé dans le langage, on l'a oublié. Et analogique, c'est le même terme, le même mot, avec une signification où, justement, il y a quelque chose de commun. Il y a un ordre dans les significations. Oui, être. L'être est un terme analogique. Pourquoi ? Parce que je peux dire la vache est un être, l'homme est un être. Tout ce qui existe, existe dans une diversité et pourtant il y a quelque chose de commun radicalement. Pas seulement le mot, mais dans la signification même. Oui, alors on dira signification analogique, universelle analogique. Donc, ça, c'est tout à fait élémentaire. C'est à partir de l'attribution qu'on regarde ces trois types d'attributions. Ensuite, on va en chercher le fondement. Analogie d'attribution, de proportion. Et on en regarde tout le rayonnement. Analogie de proportionnalité. Bon, il suffit tout simplement de comprendre ces trois termes. Et lorsqu'il s'agit des relations entre un être infini et un être fini, Dieu et l'homme, Dieu et la créature, je mettrai entre Dieu et la créature une analogie de proportionnalité.
Oui. Cette division du mot analogue, c'est quoi comme analogie ?
Quoi ?
Cette division de l'analogie, c'est quoi comme analogie ?
C'est de montrer que l'analogie, par définition, implique toujours une diversité dans l'unité.
C'est une analogie à deux mondes.
Oui. Non, 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 non. Bien plus. Adonum, c'est un type d'université et un type d'unité. Mais la diversité peut être autre et l'unité peut être autre. Vous voyez, l'unité, l'analogie de l'analogie, donc c'est essayer de comprendre. Dans la diversité, vous trouvez une unité. Et ça touche le problème de l'un multiple. C'est pour ça que je le mets en au terme, c'est l'un le multiple. La diversité, c'est la multiplicité. Et l'un, c'est l'un. Eh bien, les combinaisons de l'un et du multiple, en fonction de la pensée humaine, sont à trois niveaux. Alors, je me demande, vous voyez, c'est pas aux trois niveaux, appréhension, jugement, raisonnement. Puisque c'est toujours l'intelligence. L'universel, c'est l'un qui provient du multiple. Unum, vous savez cette expression très très forte de saint Thomas à propos de l'universel. Comment saint Thomas définit l'universel? Unum ab a multis, ça provient du multis, ex multis, ad multa, in multa ou in multis, ça dépend. Bon, l'universel provient du multiple, l'universel est vers le multiple, et l'universel est dans le multiple. Très très joli. C'est l'unum. Voilà ce que c'est que l'universel. C'est l'un vers, il provient du multiple. C'est l'un vers et c'est l'un dans. Donc l'universel, c'est l'un et le multiple. Qu'est-ce que c'est que l'analogie? C'est l'un dans le divers, donc dans le multiple. Alors vous avez l'univocité et l'analogie. Et trois combinaisons de l'un et du divers. La combinaison première qui implique un ordre. La seconde qui implique une... C'est beaucoup plus qu'un ordre, c'est une proportion. Et l'autre une proportionnalité. Bien, je crois que ça touche les trois opérations d'intelligence. Et ça touche les deux niveaux d'intelligibilité. Le niveau univoque, le niveau analogique. Le niveau univoque, c'est la définition logique. Le niveau analogique, c'est la saisie des principes. Oui. Et vous retrouvez ces deux niveaux au niveau de l'appréhension, au niveau du jugement, au niveau du raisonnement. Vous avez des raisonnements univoques, vous avez des raisonnements analogiques. Vous avez des jugements univoques, vous avez des jugements analogiques. Vous avez une appréhension univoque, et vous avez une appréhension analogique. Donc, vous avez quatre combinaisons, quatre modalités. C'est très curieux. Quatre modalités de unum ad multa, de l'un vers le divers. Vous voyez bien ça? Il faut que je les note pour que vous les voyez mieux. Parce que tout est là, hein, tout est dans la question de l'univers, c'est l'un vers le multiple. C'est l'un du multiple, c'est l'un dans le multiple. Je prends l'exemple, prenez tout simplement. L'universel, c'est quoi? Animal. C'est l'universel le plus facile à comprendre. Tout le monde comprend animal. le gosse, il dit papa à tout le monde. Avant qu'il dise homme, pour distinguer papa et homme. C'est énorme, cette distinction. Homme, c'est un universel. Papa, c'est singulier. Au début, il dit papa à tout le monde. Puis alors, il arrive à dire homme. Et puis, il arrive à dire animal. Là, il y a un progrès. Espèce d'animal. Vous voyez, animal. Parce que quand il dit animal, il commence à connaître la matière. Ex parte matériel. Dit saint Thomas. Le genre, il se prend de la matière. La première chose qu'on connaît, c'est le singulier, papa. Puis on connaît la détermination, homme. Puis on connaît le fondement, animal. Oui, bon, il y a un progrès dans la pénétration de ce que représente l'universel. Au début, c'est un terme commun, puis c'est un terme spécifique, puis c'est un terme générique. Il y a un progrès. Mais je reste en l'univoque. Puis après, mon intelligence va pénétrer dans le point de vue analogique. J'aurai un universel analogique. L'universel analogique, ce sont les notions parfaites qui n'impliquent en elles-mêmes aucune imperfection. J'aurai la notion, par exemple, bien, le bien, notion analogique. L'être, l'un, notion analogique. N'implique aucune imperfection. Alors, je l'ai d'abord au niveau universel, puis je l'ai au niveau proprement du jugement, dans la saisie des principes, grâce à l'induction. Puis je l'ai dans le raisonnement, pour saisir les propriétés. De sorte qu'il y a quatre manières de concevoir les rapports de l'un et du multiple. Oui, c'est ça l'analogie de l'analogie. La ratio de l'analogie, c'est les rapports de l'un et du multiple, de l'un et du divers. C'est-à-dire le tikoinon, ce qu'il y a de commun, c'est l'un, dans le multiple. Modalités. Oui. Au niveau. Alors, je peux préciser le lien entre l'un et le multiple. Numéro 1, c'est un ordre. L'ordre permet de comprendre ce qui mesure la diversité. L'ordonne. On ordonne. Quand vous classez des papiers, vous les classez, vous les ordonnez. Cette diversité, vous les ordonnez. Et vous avez des classements différents. Vous pouvez classer par matière, vous pouvez classer par signification, vous pouvez classer par le lieu, vous pouvez classer selon les départements. c'est vrai, c'est très curieux, ces deux types d'abstraction. L'abstraction universelle a comme fruit. L'abstraction universelle a comme fruit le genre. Les prédicables. Bon, les prédicables, oui, bien. Les cinq prédicables. Le genre, différence spécifique, espèce, propriété, accident. Ça, faut le savoir par cœur. Les cinq prédicables. La toile d'araignée, par où on saisit l'acuité. En nous, on la saisit par le bas, genre. On la saisit par le haut, différence spécifique. On la saisit en elle-même, dans son rayonnement. Et puis, les satellites, les accidents, tout ce qui rayonne. Il y a cinq manières de saisir, et qui est l'aspect de l'abstraction universelle. Donc les cinq prédicats. En réalité, il y en a quatre. Parce qu'il y en a que, il y en a cinq, oui, parce que pour l'homme, il n'y a que l'homme que saisit l'espèce. Puis l'abstraction formelle. C'est celle qui est le fruit d'une induction. Alors, ici, je saisis les notions analogiques. Le fruit, c'est un concept analogique. J'explique Saint Thomas, là. Saint Thomas ne le dit pas, ça. Mais si, en réfléchissant, on voit très bien que l'abstraction formelle présuppose toujours une induction. L'abstraction universelle aussi, mais une induction naturelle. J'en ai pas conscience. Oui. Je passe du... Oui, de la quantité de petites fourmis que j'ai vues, à dire la fourmi. Je passe de papa à homme. Passer de papa à homme, c'est une certaine induction. Mais c'est une induction naturelle. Ça se fait automatiquement. J'en ai pas conscience. Dès que de celle-ci, j'en ai conscience. C'est l'induction, la découverte de la substance, la découverte de l'acte, oui, des principes propres. Tandis que celle-là, c'est une abstraction universelle dont je n'ai pas conscience, elle est naturelle. On pourrait dire une abstraction naturelle, si vous voulez. Je n'ai pas conscience de ce passage. Tandis que passer de blanc à blancheur, abstraction formelle. Et ça, c'est le fondement de l'analogie de l'analogie. Oui. Et c'est toujours le problème de l'individu multiple. Ça, je dis le problème de l'individu multiple. Il est connaturel à notre vie intellectuelle. Et donc, il est premier du côté de la vie de l'intelligence. Il est premier du côté subjectif de la connaissance. Et il est second du côté objectif de la connaissance. Mais du côté subjectif de la connaissance, il est premier. Je pense tout le temps avec l'un multiple. Tout le temps. Je suis toujours plongé dans l'un multiple. Impossible. Parce que mon intelligence n'est pas simple. Donc c'est toujours l'un multiple. C'est un jeu de relations permanent entre l'un multiple. Et le jeu de relations le plus fondamental, c'est justement l'un et le divers. Alors, je suis en face tout le temps de l'analogie. C'est pour ça que l'analogie est un problème. J'allais dire, c'est la respiration de l'intelligence. Tout le temps, tout le temps. Mais c'est du côté de l'intelligence, dans sa manière de saisir la réalité. Tandis que la réalité, le problème de l'un et du multiple est second. Il n'est pas premier. C'est l'être qui est premier. Et l'être est un, mais c'est une propriété de l'être. Ce n'est pas l'être d'être. L'un n'est pas l'être. L'un est propriété de l'être. Alors, je dis